les COP avec...
La classe de CM1 de l'école Pasteur de Vendôme.
Bonjour, je m'appelle Théomane. Nous sommes les 22 élèves de la classe de CM1 de l'école Louis Pasteur. D'abord, nous avons commencé par l'aïkido, par des séances d'aïkido. Ensuite, nous avons travaillé sur le Japon. C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Nous avons appris à écrire des kanji et les nombres en japonais. Puis, nous avons écouté des musiques japonaises. Après, nous avons fait des exposés sur le Japon, par exemple les arts martiaux japonais. Et enfin, nous avons écrit des haïkus et ce que nous allons vous présenter. Sur le plateau, en plus de notre classe, il y a Jackie Diard, le président du club d'aïkido de Vendôme, et Gérard Bizor, celui du club de Montoir.
Bonjour, je m'appelle Ibrahim.
Bonjour, je m'appelle Emric. Nous allons vous présenter
l'histoire du Japon. Le Japon est un pays asiatique qui a connu plusieurs périodes. La préhistoire japonaise, une civilisation de chasseurs, cueilleurs et pêcheurs qui pratiquaient la poterie. Ensuite, le Japon a été envahi par des peuples venus de Corée et de Chine du Sud. Ces derniers apportèrent la culture du riz.
Ensuite, de nouveaux envahisseurs venus de Corée, les cavaliers archers ont dominé le Japon et ont apporté l'écriture chinoise et le bouddhisme. À côté de l'empereur réduit à un rôle honorifié et religieux, les grands clans, familles possédant des terres et des vassaux en grand nombre se partagent le pays, se disputent le gouvernement du pays avec le titre de shogun.
À partir du milieu du XVIIIe siècle, trois dictateurs successifs parviennent à éliminer les autres grands seigneurs et à unifier le Japon. Ce sont Oda Nobunaga, Hideyoshi, Toyotomi et Tokugawa Ieyasu. Dès le XIXe siècle, après avoir fermé le pays aux influences européennes, la société japonaise est stabilisée par un système féodal.
Cependant, dès le début du XIXe siècle, la pression des Occidentaux se fait plus forte. En 1853, les États-Unis, par la force, obtiennent l'ouverture de certains ports japonais. Au XXe siècle, suite à la Deuxième Guerre mondiale, le Japon est désarmé et consacre son énergie à son développement économique.
Zoom sur les COP avec
la classe de CM1 de l'école Pasteur de Vendôme.
Bonjour, je m'appelle Léni.
Bonjour, je m'appelle Azra.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre haïku.
C'est une poésie japonaise.
Et qui est toute petite.
Qui a 3 vers.
Et environ 5 et 7 syllabes.
Tombent les feuilles, les mouvements des arbres, le banc sans amis.
Un tronc par terre, des arbres tout nus, des maisons devant un parc.
L'aïkido. L'aïkido est un art martial japonais non violent, fondé en 1925 par Maître Morai Ueshiba, avec des techniques très particulières qui permettent de respecter l'adversaire. L'aïkidoka, celui qui pratique l'aïkido, apprend à utiliser la force et l'énergie de son adversaire en la retournant contre ce dernier. Il s'agit de le décourager et non de le détruire et de rejeter toutes les formes d'agressivité dans le vide afin de contrôler cette personne sans dommage. Chaque séance commence par un salut général. Il s'agit d'évacuer les tensions du quotidien avec discipline, apporte beaucoup sur le plan physique. Elle développe la souplesse et améliore le placement du corps ainsi que l'endurance, la résistance à la fatigue et aussi donne confiance en soi. Il développe les facultés de concentration et de maîtrise de soi dans beaucoup de situations. La France est le pays au monde où l'aïkido est le plus implanté. Environ 800 clubs et 25 000 pratiquants. L'aïkido permet aux personnes qui le pratiquent d'acquérir les valeurs morales très élevées comme la politesse, la modestie, la bonté, la loyauté, la fidélité, l'honneur, le courage et une parfaite maîtrise de soi.
Bonjour, je m'appelle Amira.
Bonjour, je m'appelle Ibrahim.
Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une interview de trois maîtresses, Madame Ganon, Madame Maté, Madame Bourguignon,
qui ont fait une séance d'initiation dans le club de Montoire.
Et maintenant, nous allons écouter l'interview.
Combien de séances d'aïkido avez-vous fait ?
Alors, j'ai fait une séance d'aïkido.
Combien de temps a duré votre séance ?
C'était une séance d'initiation, donc c'était une séance de 2 heures.
Qu'avez-vous appris pendant votre séance d'initiation ?
Alors, j'ai appris un petit peu de choses sur l'aïkido. J'ai appris à tomber en avant, à tomber et à tomber en arrière.
Avez-vous aimé votre séance ?
Oui.
Pourquoi ?
Alors, du coup, j'ai appris pas mal de choses et j'ai réappris à faire des choses qu'on faisait enfant, comme les galipettes en avant, les galipettes en arrière. C'est des choses qu'on ne fait plus quand on est adulte. Et surtout, j'étais un petit peu dans le rôle des élèves, donc c'était bien de redevenir un petit peu élève, d'apprendre des choses et surtout de savoir qu'on était capable de réussir encore, de découvrir des nouveaux sports.
Que savez-vous sur l'aïkido ?
Donc je sais que c'est un art sportif japonais, qu'on a besoin de beaucoup d'entraînement pour le maîtriser parfaitement. Que par contre c'est un sport qui est à la portée de tout le monde. Voilà en gros ce que j'ai appris. Je pense qu'il faudrait que je me renseigne un petit peu plus encore.
Combien de séances d'aïkido avez-vous fait ?
J'ai fait une séance qui était une séance d'initiation avec Madame Payet et Monsieur Bizarre.
Combien de temps a duré votre séance ?
C'était une séance d'initiation donc qui a duré à peu près 2 heures, mais qui a passé très très vite.
Qu'avez-vous appris pendant votre séance d'initiation ?
Alors pendant la séance d'initiation, au point de départ, j'ai déjà appris à saluer. Et puis ensuite, on a appris à se déplacer, à tomber en avant, à tomber en arrière, à tomber sur le côté, à faire des roulades aussi, en avant, en arrière. Et puis, on a eu une petite séance de démonstration aussi avec une arme qui était très intéressante.
Avez-vous aimé votre séance ?
Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé cette séance. Parce que c'est vrai que c'est une activité, l'aïkido, que je ne connaissais pas. Et puis c'est toujours très enrichissant d'apprendre de nouvelles activités.
Que savez-vous sur l'aïkido ?
Alors l'aïkido, ce que je sais maintenant, et en tout cas ce que j'aime, c'est la philosophie de ce sport, de cette activité. C'est arriver à se défendre tout en évitant le conflit, et presque en douceur, c'est quelque chose qui est très doux. Et c'est tout le contraire de la violence, donc c'est vraiment quelque chose de super.
Combien de séances d'aïkido avez-vous fait ?
Alors moi j'ai déjà fait 2 séances en tant qu'accompagnante d'un groupe scolaire, donc là j'avais pas pratiqué l'aïkido, et j'ai fait par moi-même une séance d'initiation aïkido.
Combien de temps a duré votre séance ?
Donc ma séance d'initiation a duré 2 heures je crois.
Qu'avez-vous appris pendant votre séance d'initiation ?
Alors, ça m'a permis d'apprendre que chaque partie du corps, prendre conscience de chaque partie du corps, dont des parties, notamment des muscles, qu'on n'a pas l'habitude de mettre à rude épreuve, à certains dans d'autres disciplines ou dans la vie de tous les jours. Et puis, d'abord tout seul, et puis après avec l'aide d'un partenaire.
Avez-vous aimé votre séance ?
Oui, j'ai beaucoup aimé ma première séance.
Pourquoi ?
Parce que du coup, ça permet de prendre conscience justement de certaines parties du corps qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, de faire tout ça dans un état d'esprit aussi, un moment de calme, d'écoute, d'échange, de partage, l'idée de partage et donc toute la philosophie qui va avec l'aïkido.
Que savez-vous sur l'aïkido ?
Donc après une petite séance d'initiation, je vois à peu près à quoi ressemble l'aïkido. J'ai aussi assisté à des petites démonstrations, donc je vois ce que les personnes qui maîtrisent plus peuvent en faire. Et voilà, donc c'est un véritable sport qui met à mal certains muscles. Des fois, on peut avoir des courbatures le lendemain. Et donc le sport en lui-même, l'idée du partenaire qui est très importante, de l'écoute, le partage, voilà, qui est très importante. Et puis l'idée de toute la philosophie effectivement qu'il y a autour de l'aïkido. On parle du code moral en judo, mais dans l'aïkido, il y a aussi ces valeurs-là.
Zoom sur les COP avec...
Les samouraïs. Dans le Japon d'avant 1867, un samouraï était un guerrier au service d'un seigneur. Le samouraï reçoit une éducation sévère qui vise à ne pas avoir peur de la souffrance et de la mort, à respecter le code d'honneur et à faire de lui un guerrier efficace dans le maniement des armes.
En cas de perte de son honneur ou de faute, le samouraï se donne la mort au cours d'une cérémonie publique. Un samouraï non rattaché à un seigneur est appelé Ronin. Le mot samouraï vient du japonais saburo qui veut dire service. Ce mot est surtout employé à partir du début du XVIIe siècle.
Bonjour, je m'appelle Boran. Le code d'honneur des samouraïs. Le code d'honneur des samouraïs se résume en 9 points. L'honneur, le respect, la bienveillance et la bonté. La sincérité, la modestie et l'humilité, le contrôle de soi, le courage, la droiture, la fidélité. Le Bushido est le code des principes moraux que les samouraïs japonais étaient tenus d'observer. Bushido veut dire la voie du guerrier. Bushi, brave, guerrier et de la voie. La plupart des samouraïs vouaient leur vie au Bushido, un code strict qui exigeait loyauté et honneur jusqu'à la mort. Si un samouraï échouait à garder son honneur, il pouvait le regagner en commettant le seppuku, mieux connu sous le terme de harairi ou l'action de s'ouvrir le ventre.
Bonjour, je m'appelle Amira.
Bonjour, je m'appelle Théoman.
Les arts martiaux. Un art martial a des techniques de combat diverses. Martial vient du latin mars, dieu de la guerre, associé à la maîtrise de soi. Il existe des arts martiaux dans pratiquement tous les pays, mais les arts martiaux les plus célèbres sont ceux de Chine, du Japon et de la Corée.
L'histoire des arts martiaux remonte à très longtemps, aux premiers âges de l'humanité, puisque l'homme se fait la guerre depuis toujours. Pour survivre, les guerriers ont dû trouver et inventer des techniques qui leur permettent de vaincre les ennemis qui étaient plus grands, plus forts et beaucoup plus agressifs qu'eux. L'art martial est différent du sport de combat.
Le sport de combat est un sport avec ses règles de compétition. Il n'est pas organisé pour la guerre, par exemple la boxe, le judo. Au contraire, l'art martial permet aux personnes l'utilisation de toutes les techniques, même les techniques les plus dangereuses, pour pouvoir mettre à terre un ou plusieurs ennemis. Par exemple, le jujitsu, le krav maga.
L'aïkido est un art martial, même s'il répond à un objectif de paix. Comme le souhaitait son fondateur, Morihei Ueshiba, nous pouvons conclure que les techniques acquises dans un sport de combat peuvent être utilisées très souvent pour se défendre.
Bonjour, je m'appelle Nadia. Alors, je suis là à double titre, puisqu'en fait, je suis l'enseignante dans la classe de CM1. Et en même temps, j'enseigne l'aïkido. Donc, je pratique l'aïkido depuis un petit peu plus de 20 ans. Et donc, j'enseigne l'aïkido au club de Montoire, dont je m'occupe.
Bonjour, je suis Gérard, j'enseigne l'aïkido à Montoire depuis quelques années. Auparavant, je l'ai enseigné ailleurs pendant de très longues années. Donc, comme vous l'avez dit dans votre exposé, il y a une partie très intéressante dans l'aïkido, c'est la partie do. Aï, ça veut dire union, ki, énergie, do, le chemin qu'on va suivre.
Bonjour, je m'appelle Jackie, je suis le président du club d'aïkido de Vendôme. Depuis 6 ans, je suis venu à Aïkido il y a maintenant 13 ans.
Alors, si les enfants ont pu faire de l'aïkido, c'est suite à une idée entre Jackie et moi, puisque nous pratiquions à la base dans le même club, c'est-à-dire le club de Vendôme. Et en discutant, puisqu'on s'occupait tous les deux, entre autres, du cours enfant, enfin, on participait au cours enfant de Vendôme, on s'est dit que ça serait bien si on pouvait mettre en place des cours d'initiation pour les enfants de notre école. Donc en fait, chaque année, on fait quelques séances d'initiation d'aïkido, à savoir 3 au mois de décembre. Bon, je commence à préparer les enfants en amont. Et puis, on va donc pendant 3 séances au dojo de Vendôme. Là, on est accueilli par le président, bien évidemment, mais aussi par d'autres enseignants d'aïkido, et on s'occupe de 2 classes d'enfants. En fait, on va avec les CM1 et avec les CM2, et selon les années, c'est entre 45 et 56 enfants qui montent sur le tatami.
Et qui ont bien compris ce que c'était que l'étiquette, par exemple, hein, pour faire le lien avec le dos de tout à l'heure. Donc les enfants, chaque fois que vous êtes venus, vous avez bien compris comment il fallait se comporter dans la salle et comment monter sur le tatami. Et ça, c'est le début de la compréhension du chemin.
Zoom sur les COP avec
la classe de CM1 de l'école Pasteur de Vendôme.
Bonjour, je m'appelle Mathieu Carvégan et je vais vous présenter mon haïku.
Bonjour, je m'appelle Ibrahim, je vais vous présenter mon haïku.
Je m'appelle Amira, je vais vous présenter mon haïku.
Bonjour, je m'appelle Ricky.
Bonjour, je m'appelle Emirjan, je vais vous présenter mon haïku.
La neige tombe très fort, il ne fait pas beau, dehors l'arbre blanc.
La neige est tombée, les montagnes superbes, les arbres sont blancs.
Les champs enneigés, il fait très froid là dehors, l'hiver est venu.
La neige tombe, une montagne blanche, une barrière.
L'arbre semble mort, il ne fait pas beau dehors, les nuages gris.
Thank you.
Jacob avec...
L'écriture japonaise. L'écriture japonaise n'est pas une écriture comme la nôtre, elle ressemble plutôt au chinois. L'alphabet et les nombres aussi sont différents. Les prénoms ne s'écrivent pas pareil. Nous avons essayé d'écrire les nôtres avec de la peinture blanche ou noire et un pinceau. Elles se forment à partir de kanji.
Au Japon, il existe trois systèmes d'écriture bien distincts, qui trouvent chacun leur fonction spécifique. Des kanji qui viennent de Chine et exprimer des idées, deux écritures syllabiques, hiragana et le katakana et le romaji qui exprimaient les mots d'origine latine. Le japonais est parlé par 127 millions de personnes.
Les mangas. Le manga est une sorte de bande dessinée créée vers le 18e siècle. Il se lit généralement de droite à gauche. Le mot manga signifie donc à l'origine image dérisoire ou caricature.
La personne qui dessine les mangas ou invente l'histoire s'appelle le mangaka. C'est un métier. Le premier manga a été publié en 1902 au Japon. En France, le manga apparaît dans les années 1980 avec Goldorak, mais devient populaire dans les années 1990.
La culture manga est mal vue et peu médiatisée au Japon. C'est considéré comme de la sous-culture. Les Japonais pensent que cela donne une mauvaise image de leur pays.
Le paradoxe est que c'est ce qui marche le mieux à l'étranger.
Bonjour, je m'appelle Asia, l'école japonaise. En bien des points, le système scolaire japonais ressemble au système scolaire français. Les élèves japonais ont cours du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30 et de samedi par mois, le premier et le troisième. Les cours durent 50 minutes et sont entrecoupés de pauses de 5 minutes.
Mais il y a aussi des différences. À midi, les élèves mangent souvent dans leur classe sur leur bureau. Le soir, ce sont eux qui nettoient la classe, mais aussi les toilettes, les couloirs, la salle des enseignants, et on fait un roulement.
Les livres dans lesquels ils apprennent leur langue sont différents des nôtres. La première page pour eux est la dernière page pour nous. Et la dernière page pour eux serait la première page pour nous. Et ils lisent de droite à gauche. Pour le calcul, ils apprennent à se servir d'un boulier, le soroban. En manipulant les boules, ils peuvent faire leur opération aussi vite qu'avec une calculatrice. Les écoliers japonais portent souvent un uniforme à l'école.
Contrairement au système scolaire français, ce n'est pas simple du tout l'école au Japon, car les élèves ont un tel souci de réussite que cela devient stressant pour eux. Donc nous pouvons en déduire que leur rythme est très soutenu, avec obligation de très bons résultats. L'esprit de compétition est très fort, il domine l'école japonaise et influence les mentalités et on se bat pour être le meilleur de la classe. Cela coûte très cher pour les parents.
Zoom sur les COP avec
la classe de CM1 de l'école Pasteur de Vendôme.
Je m'appelle Mathieu, je vais vous présenter mon haïku.
Je m'appelle Théoman et je vais vous présenter mon haïku.
Je m'appelle Emmerich.
Je m'appelle Jessie, je vais vous présenter mon haïku.
Par un jour d'hiver, je ne peux pas voir dehors et l'hiver passe.
L'hiver est venu, l'arbre n'a pas de feuilles, dehors il fait froid.
Les champs sont pleins de neige, les arbres givrés ont fait du patin.
La barrière haute des montagnes de neige a rechapoté.
L'hiver est venu, les arbres enneigés, les montagnes sont blanches.
L'ikebana et les bonsaï. L'ikebana est un art traditionnel japonais basé sur l'arrangement floral. Chaque élément est mis en valeur et a un rôle bien défini. Le mot ikebana vient du japonais ikeru ana. Ikeru égale faire vivre et ana égale fleur. C'est l'art de faire vivre les fleurs.
La composition florale est réalisée à base de fleurs, de feuillages et de branchages. L'organisation de cette composition repose sur le respect et la connaissance de la nature. Elle suit le rythme des saisons et respecte les règles fondamentales suivantes. Représentation de la terre, du ciel et de l'homme.
Les bonsaï furent inventés en Chine au tout début de la dynastie Han et exportés au Japon entre le XIIe et le XIIIe siècle, sous Li Yang.
Les bonsaï ne sont pas que des arbres nains, ils servent à décorer les maisons et aussi à aider à mieux respirer.
Je m'appelle Najima. Les kimonos. J'ai choisi les kimonos yukata kofuku parce que Japon, c'est le vêtement traditionnel. Les Japonais ne portent pas les kimonos que pour l'aïkido ou le karaté. Le kimono féminin est très coloré alors que le kimono masculin est plus sombre et souvent uni. Le choix d'un kimono est très important au Japon. Il indique si une personne est riche ou pas, si elle est mariée ou non, son âge, le type d'événement pour lequel elle le met. La ceinture appelée un nobi sert à fermer les vêtements traditionnels japonais, tels que les kimonos ou les vêtements d'entraînement pour les arts martiaux. Les kimonos coûtent très cher, c'est pour cela que depuis quelques années, certains Japonais achètent plutôt sa version simplifiée, le yukata, un léger kimono d'été. Un kimono sur le marché peut se vendre à partir de 30 000 yens, tout dépend de l'état, donc environ 300 euros au quotidien. Les Japonais s'habillent avec des vêtements de style occidental, mais ils portent un kimono pour les grandes occasions comme les mariages ou les cérémonies de remise de diplôme.
Zoom sur les COP avec
la classe de CM1 de l'école Pasteur de Vendôme.
Je m'appelle Assia, je vous présente mon haïku.
Bonjour, je m'appelle Zainabou et je vais vous présenter mon haïku.
Bonjour, je m'appelle Najima, je vais vous présenter mon haïku.
Bonjour, je m'appelle Karen, je vais vous présenter mon haïku.
Bonjour, je m'appelle Ous, je vais vous présenter mon haïku.
Les arbres joyeux, les oiseaux chantonneront, les fleurs du printemps.
L'eau soleil brille, quel merveilleux temps, aujourd'hui c'est le printemps.
Le soleil brille, les fleurs fleurissent, le beau temps est là.
J'aime le printemps, belles sont les pétales, la forêt verdit.
Un arbre coupé, un banc bizarre, une branche dans l'arbre.
Bonjour, je m'appelle Zeynep, je vais vous présenter la fête des étoiles. La fête japonaise des étoiles s'appelle Tanabata et se déroule la 7e nuit du 7e mois, 7 juillet ou 7 août du calendrier. Elle correspond à des traditions. La légende dit qu'il s'agit d'une histoire d'amour entre une déesse tisserande et d'un bouvier mortel. Il existe une légende sur la fête des étoiles avec de nombreuses variantes qui nous racontent que la déesse quitte le monde céleste pour épouse le bouvier et lui donne deux enfants, une fille et un garçon. La mère de la déesse finit par la retrouver et la fait revenir dans le monde des dieux. Pour empêcher le bouvier de voir son épouse, les dieux séparent les deux mondes par une rivière infranchissable, la Voie lactée. La fête des étoiles est célébrée dans tout le Japon. Les gens écrivent leurs souhaits sous forme de poèmes sur des lampions et des papiers multicolores. Tanzaku, qui sont accrochés à un bambou décoré de guirlandes, pompons et autres objets décoratifs. Lorsque Tanabata est terminé, le bambou est jeté au fleuve ou brûlé. Il y a des défilés, parades, des concours de décoration, des feux d'artifice et même des élections de Miss Tanabata. Cette célébration trouve sa source dans une légende romantique qui dit que tout souhait exprimé pendant Tanabata sera exaucé. Vous pouvez assister à cette fête un peu partout à travers le Japon. À cette occasion, les Japonais arborent le yukata, kimono d'été. Nous pouvons dire que cette tradition reste bien présente dans ce pays.
Bonjour, je m'appelle Zainabou.
Bonjour, je m'appelle Chloé.
Et on va vous présenter le réveillon japonais. Le nouvel an japonais se passe essentiellement en famille et se déroule en plusieurs étapes du mois de décembre. Jusqu'au premier jour de janvier, du 1er au 3, avec plusieurs traditions à respecter. D'abord, les Japonais font le grand ménage dans les maisons pour purifier les lieux.
Dans le même temps, les cartes de vœux sont envoyées en grand nombre, entre 50 et 100, à la famille ou aux amis afin qu'elles arrivent le 1er janvier. Les derniers jours du mois de décembre, il faut préparer les mets destinés à être consommés les 3 premiers jours de la nouvelle année. Personne ne doit travailler durant la période du réveillon.
Le réveillon japonais est très codifié avec des aliments incontournables qui ont tous une signification symbolique. D'abord, on mange avant minuit et pas après, cela porterait malheur. Le réveillon du 31 décembre, c'est l'occasion de manger en famille en regardant à la télévision l'émission musicale Kohaku Utagasen, au succès indéniable.
Japonais dégustent une soupe chaude accompagnée de nouilles fines et longues soba, symbole de longévité et de dessert mushi, un mets japonais à base de riz gluant.
Ensuite, ils se rendent dans un sanctuaire ou un temple pour aller prier. La cloche va sonner 108 fois, chiffre correspondant au nombre de tentations terrestres chez les hommes dont il faut se débarrasser pour vivre bien. Enfin, pendant les premiers jours de janvier, il est de coutume de passer du temps en famille et de faire quelques rituels de début d'année, comme de souhaiter la bonne année aux membres de sa famille, ses proches, ses amis et ses connaissances.
Il est de coutume d'offrir aux enfants des enveloppes qui contiennent de l'argent.
Le 2 janvier, c'est l'empereur du Japon qui va faire son discours, un rituel annuel.
Comme on peut le constater, le nouvel an est une histoire de tradition et de famille.
Bonjour, je m'appelle Ikram.
Bonjour, je m'appelle Karen.
Nous allons vous présenter la nourriture japonaise. La cuisine japonaise est très variée, très connue dans le monde entier, très saine parce que la cuisson à la vapeur, ses nombreux légumes, ses poissons crues font que c'est une cuisine digeste. Dans les aliments de base au Japon, on trouve les pâtes et les nouilles.
On trouve aussi beaucoup de soupes froides ou chaudes. Dans les plats principaux, on peut trouver des poissons, des sushis et des viandes poulet. La nourriture est très diversifiée et ne contient pas d'huile de palme et peu de colorants.
Le petit déjeuner japonais est très diversifié et c'est le cas pour tous les repas de la journée plutôt qu'un gros plat principal. Les Japonais préfèrent piocher dans une multitude de petits plats. On dit qu'il faut manger au moins 50 aliments différents par jour.
La cuisine japonaise est raffinée, créative et aussi jolie à regarder.
Zoom sur les copes avec
la classe de CM1 de l'école Pasteur de Vendôme.
Bonjour, je m'appelle Zeynep, je vais vous présenter mon haïku.
Je m'appelle Olcion, je vais vous présenter mon haïku.
Bonjour, je m'appelle Chloé, je vais vous présenter mon haïku.
Le soleil est beau, le lac était chaud, joncs et fleurs se balancent.
Le soleil brille, on voit bien les montagnes, les fleurs sentent bon.
Le soleil est là, un arbre avec des feuilles, un chemin tout blanc.
En été, les fruits poussent, il fait chaud l'été, le soleil brille.
Alors voilà, cette émission touche à sa fin. Et je voudrais remercier beaucoup Charles d'être venu dans notre école pour enregistrer cette émission. Je voudrais aussi remercier les enfants. Parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour faire ces exposés et ces haïkus. Et ça n'a pas été de la tarte. En fait, on a commencé à travailler depuis le mois de décembre. Voilà, et on a terminé les derniers exposés il y a quelques jours seulement. Je voudrais remercier aussi Gérard et Jackie qui sont venus nous aider à animer aussi cette émission. Et puis, je voudrais remercier une dame qui fait souvent un travail dans l'ombre, qui s'appelle Christine, et qui a beaucoup aidé les enfants. Elle s'occupe de l'atelier informatique. Et oui, vous pouvez l'applaudir, les enfants. Oui, tout à fait. Et tout au long de l'année, elle aide les enfants dans la salle informatique. Et là, elle les a vraiment aidés à faire ses exposés, à reformuler quand c'était mal dit. Enfin, elle les a bichonnés. Et je crois qu'on a tous un petit mot à vous dire, parce que maintenant, c'est l'heure de la fin. Et on va vous dire au revoir en japonais. Vous vous rappelez ? 1, 2, 3... Sayonara!
Zoom sur les copes avec
la classe de CM1 de l'école Pasteur de Vendôme.